Info Matin, Nicolas Legrand.
Un train de mesures pour relancer l'économie du territoire. Les loyalistes déposent une proposition de loi du pays qui fait écho, selon le parti, au PS2R du 17e gouvernement. J-1 avant la déclaration de politique générale de François Bayrou, un discours très attendu puisque certains partis agitent la menace de la censure du Premier ministre. Fin de l'alerte rouge à Mayotte. Pour autant, les autorités craignent toujours de nouvelles inondations en raison de la mousson. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale examine le projet de loi d'urgence pour reconstruire l'archipel. À l'étranger, l'inquiétude aux États-Unis. Des vents violents sont attendus, ce qui devrait accentuer encore les incendies. Les météorologues américains prévoient d'ailleurs une tournure extrême des événements dans les prochains jours. Dans ce journal, on s'intéressera aussi à la filière cerf sauvage. Des chasseurs sont formés en ce moment pour pouvoir commercialiser cette viande. Le sport, du tennis et deux nouveaux Français qualifiés pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. L'aventure continue à Melbourne pour Arthur Cazaux et Benjamin Bonzi. Cinq nouveaux Français seront d'ailleurs sur les courts aujourd'hui. La météo en Nouvelle-Calédonie, vigilance jaune, fortes pluies et orages pour des averses localement orageuses sur la Grande Terre et Belep. Le temps reste maussade et pluvieux sur l'ensemble du territoire, même si la couverture nuageuse devient moins chargée en fin d'après-midi sur le nord-ouest. Les températures maximales sont limitées par la couverture nuageuse, comprise entre 28 et 31 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique sur le territoire.
Oui, et à leur tour, je le disais, donc les loyalistes font des propositions concrètes au Congrès pour soutenir l'économie. Ils ont déposé hier une proposition de loi du pays comportant des mesures de sauvegarde économique et de reconstruction, Jean-François Bodin.
Et pour expliquer leur démarche, les loyalistes rappellent l'ampleur de la crise générée par les émeutes de mai 2024. Le bilan est désormais connu. Le territoire a vu disparaître des milliers d'emplois, des centaines d'entreprises et les principales filières économiques se retrouvent en grande difficulté. À cela s'ajoute une pénurie critique de personnel médical et une précarité croissante pour de nombreuses familles qui font face au chômage partiel ou total, écrivent les loyalistes. Ce sont les raisons pour lesquelles ils ont donc déposé cette proposition de loi du pays qui fait écho, disent-ils, au PS2R du 17e gouvernement et vise à répondre aux besoins économiques les plus urgents. Ce texte s'articule autour de six thématiques et propose sur chacune d'elles plusieurs mesures concrètes. Cela concerne un soutien au secteur du BTP pour relancer l'activité et protéger les emplois, un soutien aux ménages dans leurs projets immobiliers de construction ou d'acquisition pour dynamiser le marché, le renforcement de l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé afin de faire face à la pénurie critique de soignants, le soutien au pouvoir d'achat des familles durement frappées par la crise. Les deux dernières thématiques concernent l'aide à la reconstruction des entreprises sinistrées et la facilitation de l'ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques. Ces mesures de sauvegarde de l'économie constituent une réponse visant à stopper l'effondrement pour mieux préparer la relance économique à venir, concluent les loyalistes.
À la une en métropole maintenant, peut-être parlera-t-il de la Nouvelle-Calédonie. La nuit prochaine, le Premier ministre prononcera sa déclaration de politique générale. Mais ce qui agite la classe politique en métropole, c'est la réforme des retraites. Sera-t-elle suspendue ou non ? Les socialistes apparaissent comme ceux qui avaient le dossier en main. Ils étaient d'ailleurs reçus à Matignon ces dernières heures. Alors où en est-on de cet arbitrage qui semble crucial pour le Premier ministre François Bayrou ? Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Eh bien, François Bayrou multiplie les rendez-vous. Il s'entretient en ce moment avec une délégation du Parti Socialiste. Cette même délégation a déjà échangé cet après-midi avec le ministre de l'Économie, du Budget et de la Santé. Et selon les informations d'Europe 1, ce premier rendez-vous ne s'est pas bien passé. Le compte n'y est pas. Nous ne sommes pas contents du tout, rapporté à un élu socialiste en chemin vers Matignon, déçu de constater qu'à ce stade, l'exécutif ne choisit pas l'option d'une suspension de la réforme des retraites. On s'est fait balader depuis une semaine, regrette amer un élu socialiste de premier plan. Pas de suspension de la réforme des retraites à ce stade. Cette décision, si elle devait être confirmée, pourrait mettre François Bayrou en danger dans la mesure où il n'obtiendrait pas un accord de non-censure avec la gauche. Si c'est comme ça, on censure jeudi, peste un des négociateurs socialistes. D'où cette réunion de la dernière chance à Matignon ce soir. Le Premier ministre doit trouver une issue, un équilibre pour ne pas prendre le risque de chuter dès jeudi.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Par ailleurs, François Bayrou recevait 4 des 5 syndicats agricoles ce lundi. Mais pour les organisations professionnelles, le Premier ministre n'a pas été assez concret. Ils attendent donc des réponses rapides de la part du Premier ministre. Après leur rencontre, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont donné rendez-vous au Salon de l'agriculture fin février prochain. La Confédération paysanne, de son côté, est déçue. Et enfin, la coordination rurale attend la déclaration de politique générale du Premier ministre. Un discours qui aura lieu, je le rappelle, la nuit prochaine pour nous.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici tout d'abord notre question du jour. Selon vous, François Bayrou, qui prononcera la nuit prochaine pour nous sa déclaration de politique générale, va-t-il arriver à échapper à une motion de censure ? Si vous pensez qu'il va échapper à une motion de censure, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant, 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il est urgent de faire venir des renforts sanitaires, notamment des infirmières de métropole. Ils sont donc 7% à penser que ce n'est pas urgent. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour une nouvelle question du jour. En attendant, il est 6h passé de 36 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va poursuivre avec l'actualité en métropole après la pub et notamment le gouvernement de François Bayrou qui s'attaque au trafic de drogue.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 ou au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Grande nouvelle, Mitsubishi vous accueille dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, sur le site Sidaps à Ducos. Venez tester nos véhicules, bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins et profitez d'un espace conçu pour votre confort. Rendez-vous dès aujourd'hui pour vivre l'expérience Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et je le disais il y a quelques instants, le gouvernement de François Bayrou qui s'affaire dans la lutte contre les trafiquants de drogue. En 2024, près de 47 tonnes de cocaïne ont été saisies en France. C'est plus du double que les chiffres de 2023. C'est même un record. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, veut faire encore mieux cette année. Et il était pour cela en visite au Havre. Et il a fait de la lutte contre la criminalité organisée un combat national. Combat qu'il compare même à celui mené contre le terrorisme. Et à cette occasion, il a annoncé la création d'une cellule de renseignement portuaire.
Je suis venu annoncer qu'il y aura la création d'une CROSS, d'une cellule de renseignement portuaire dédiée vraiment au port du Havre, avec un renfort en termes de police, un renfort en termes de gendarmerie. Il y a aussi, bien entendu, les douanes, deux analystes aussi qui seront présents. J'ai annoncé la nomination au 1er février d'un nouveau patron de l'OFAS au niveau national, l'Office anti-stupéfiant. Qui sera Dimitri Zoulas, qui est un très très bon connaisseur. Il était à la source de ce qu'on appelle le CIRASCO, qui est un service de renseignement, d'information, d'analyse stratégique sur la douane. Il a été sur la drogue. Il a été ensuite à la sous-direction antiterrorisme de la direction nationale de la police judiciaire. Il est actuellement dans les Balkans, donc il connaît parfaitement la géopolitique de la drogue.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui peut compter sur l'implication à ses côtés du garde des Sceaux. Gérald Darmanin martèle son message. Il veut enfermer les 100 plus gros narcotrafiquants dans la même prison.
Les 100 personnes les plus dangereuses, celles qui ont l'âge d'ailleurs de faire encore un certain nombre de crimes et de délits, qui commandent leur point de deal, qui commandent des assassinats. Je pense qu'il faut savoir répondre quand on est la République et les mettre à l'isolement. Et on va commencer par les 100 premiers, puis après on fera les 200 suivants et puis les 200 suivants.
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui souhaite mettre en place son projet de prison pour narcotrafiquants d'ici le milieu de l'année. Deux établissements sont cités pour accueillir ces barons de la drogue. Celui d'Alençon-Condé-sur-Sarthe en Normandie et Vendin-la-Vieille dans le Nord, deux centres pénitentiaires jumeaux. Mais alors pourquoi sont-ils pressentis pour ce projet du garde des Sceaux, Jean-Baptiste Marty ?
D'abord pour leur taille, des établissements à échelle humaine non surpeuplés, actuellement remplis à 80%. Des prisons récentes qui ont entre 10 et 15 ans de service avec des systèmes de sécurité modernes. Wilfried Funk du syndicat UFAPUNSA.
On peut parler des brouilleurs de téléphone en particulier, où là, oui, vous avez deux structures qui sont totalement brouillées, où les téléphones sont totalement inopérants. Ils sont aussi équipés de miradors relativement récents, avec des armements aussi particulièrement performants.
Mais regrouper ces 100 narcotrafiquants va poser problème déjà dans les transferts de prisonniers, puisqu'actuellement, ces deux prisons accueillent des détenus à risque, Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam à Vendin. Un défi sécuritaire donc pour Wilfried Funk.
Derrière, il faut aussi qu'on ait d'autres structures qui soient d'un niveau de sécurité identique. Et puis aussi, on va être confronté avec des difficultés législatives et légales, et je pense notamment au maintien des liens familiaux.
Comprenez, ne pas mettre le prisonnier trop loin du domicile familial. Enfin, dernier défi de taille, former les agents. Mais cela a un coût. Il faudra donc augmenter le budget du ministère, aujourd'hui établi à 3,9 milliards d'euros, soit environ ce que représente aujourd'hui le trafic de drogue en France.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. La vigilance rouge levée à Mayotte, qui a connu ces dernières heures le passage de la dépression tropicale Tikelédi. Mais les autorités craignent de nouvelles inondations puisque la mousson devrait s'abattre sur Mayotte au cours des prochains jours. La population mahoraise qui reste évidemment très marquée par Chido et qui scrute le ciel avec inquiétude.
Ça soufflait beaucoup quand même, ça nous rappelait Chido une heure avant son apogée. Là, ça s'est revenu à la vie normale. Vu qu'il est déjà vraiment, il a quitté Djali, il est vraiment très très loin. Donc là, c'est bon, les gens commencent à se calmer.
Et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale a commencé à examiner en commission le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Un texte qui vise à mettre en place des mesures afin de faciliter la reconstruction de l'archipel après le passage du cyclone Chido. Écoutez la députée Liotte Estelle Youssoufa, rapporteure du texte.
Mayotte sort depuis quelques heures à peine de l'alerte rouge cyclonique lancée samedi soir. Quasiment un mois, jour pour jour, après le passage du cyclone Chido qui a ravagé notre île, c'est Tikelédi qui est venu hier plonger la population dans un nouveau cauchemar de dévastation avec des vents violents mais surtout des pluies torrentielles, des coulées de boue et des inondations. Nous qui n'avons pour beaucoup plus de toit, avons encore une fois vu le ciel nous tomber sur la tête et détruire les quelques biens qui restaient. Et nous estimons que le cyclone Chido nous impose de reconstruire Mayotte mieux, correctement, durablement, solidement. Pour sortir du précipice, pour résister au changement climatique, pour offrir un avenir à nos enfants et construire la prospérité de demain.
Estelle Youssoufa qui demande du courage de la part du gouvernement pour refonder la situation à Mayotte. Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, était entendu par cette commission. Il a fixé le cap, traiter les urgences et notamment les nouvelles difficultés après Tikelédi, reconstruire puis refonder Mayotte.
Nous devons donc aux Mahorais de trouver ensemble des solutions fortes, concrètes, pragmatique et dénuée de toute idéologie, si c'est possible. Depuis que j'ai pris mes fonctions de ministre des Outre-mer le 23 décembre dernier, la situation à Mayotte s'est imposée à moi, à nous tous, comme une urgence immédiate, au fond, comme la priorité numéro un de notre action. Ça l'est également pour le Premier ministre et pour l'ensemble du gouvernement, engagé dans la réponse à la crise et dans la déclinaison progressive mais rapide du plan Mayotte debout. J'ai un mandat clair, celui de refonder Mayotte. Et refonder, et je le dis sans détour, avec clarté, cela va beaucoup plus loin que reconstruire. Mais reconstruire est un préalable incontournable pour répondre aux urgences et envisager ensuite une véritable refondation. C'est la responsabilité qui nous incombe à tous.
Et cette audition du ministre des Outre-mer continue. Manuel Valls qui annonce qu'il se rendra à Mayotte dans les 15 prochains jours.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h43.
Longtemps, la Californie se souviendra de cette vague d'incendies redoutables et meurtrières de janvier 2025. Les images d'apocalypse font le tour du monde, des tas de cendres en lieu et place des villas des stars d'Hollywood et une végétation réduite au néant. Certains n'ont plus rien, des cagnottes se mettent en place pour les plus démunis. Cette vague n'est pourtant pas finie, le service météo américain redoute désormais une tournure extrême des incendies dans les jours à venir. Caroline Baudry pour Europe 1.
Oui, à cause du retour du phénomène Santa Ana, ces vents chauds et secs qui font l'effet d'un sèche-cheveux sur des collines déjà arides. Alors, pas d'espoir d'un retour avant jeudi pour les 100 000 personnes toujours évacuées. En attendant, ils sont des milliers à patienter des heures autour de la zone pour espérer pouvoir récupérer des affaires ou vérifier que leur maison est toujours debout. Parmi eux, des clients de Christophe, un agent immobilier.
Sur Malibu, Palisades, tout ça, c'est à peu près tout fermé. Il y a toujours la fumée là-bas aussi. C'est trop dangereux maintenant d'aller dans les collines parce qu'il y a des fuites de gaz. Les gens qui savent que la maison est partie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui cherchent des maisons, des appartements pour louer. C'est difficile parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin et il n'y a pas beaucoup de maisons ni appartements pour louer.
Les prix s'envolent et les autorités menacent même de poursuivre des propriétaires sans scrupules. 12 000 bâtiments ou maisons sont détruits. Le bilan devrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars.
Et côté humain, le bilan de ces incendies en Californie fait état de 24 morts. Mais le shérif indique qu'il devrait être beaucoup plus lourd puisque des corps sont retrouvés chaque jour. Il est 6h45, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment le développement de la filière SERF.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Chez Nissan, l'aventure continue. Notre showroom étant en travaux, nous vous invitons dans le nouveau showroom Mitsubishi sur le site Synapse à Ducos. Vous y découvrirez nos derniers modèles et nos commerciaux dans un espace moderne et convivial. On vous attend sur le site Synapse à Ducos et à très bientôt pour l'ouverture officielle de notre nouveau showroom Nissan.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Avec Canal+, vivez les émotions de Noël. Profitez de l'offre exceptionnelle de cette fin d'année. Plus de 85 chaînes, dont toutes les chaînes Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs pendant 2 ans. À vous, le meilleur du sport et le cinéma ultra récent à prix canon. Un petit truc en plus, Mad Max Furiosa, Godzilla by Kong, Vice Versa 2 ou encore Le Comte de Monte Cristo. Tout ça arrive déjà sur Canal+. Alors faites-vous plaisir à seulement 3000 francs par mois. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection Plus, moins un coût offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 2 ans. Remise également valable pour un abonnement de 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord, en bref, du côté des feux de brousse, la situation s'améliore à Païta. L'incendie de la Tamoa Saint-Laurent a été totalement éteint hier en début d'après-midi. Les pompiers dressent un bilan approximatif de 5 à 6 hectares brûlés. Quant aux feux au haram de la Tontouta ou encore au niveau du quai Manteau, ils sont maîtrisés mais pas tout à fait éteints. Certains points chauds persistent et les pompiers de Païta effectuent des rondes de surveillance. Je le disais, un pas en avant pour le développement de la filière cerf sur le territoire. 15 nouveaux formateurs intègrent le projet porté depuis 2 ans maintenant par la province sud, Léo Fichou.
Ils sont tous chasseurs, viennent de Bouraille, Bouloupari, Nouméa, Farino ou encore Conné. Ils se sont portés volontaires pour devenir formateurs. Ils ont eux-mêmes reçu une formation en novembre dernier et sont maintenant habilités à initier d'autres chasseurs. Le but est à terme de commercialiser la viande de cerf sauvage, un procédé qui doit respecter de nombreuses règles, notamment d'hygiène. Voilà tout l'objet de la formation reçue en novembre dernier par André Révillon. Il est président de l'Association des chasseurs du Grand Sud et fait partie des 15 nouveaux formateurs.
C'est une formation de formateurs, donc c'est pour ça que c'était restreint. Et ces personnes qui ont suivi cette formation, mais maintenant on sera habilité à former d'autres chasseurs pour cette commercialisation de la viande de chasse. Déjà, il faudra que les cerfs soient tués d'une façon propre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de blessure au niveau du corps ou d'impact de balle. Et ensuite, après, l'éviscération qui doit se faire d'une façon plus propre que ce qui est fait généralement dans les chasses, de façon bien ciblée. Et ensuite, après, il va falloir vider la bête. On a un temps pour vider les bêtes et après pour les mettre en chambre froide. Tout ça, c'est ce qu'on nous a appris.
André Révillon, président de l'Association des chasseurs du Grand Sud. Notez que ce n'est que le début du développement de la filière cerf sur le territoire. La prochaine étape sera de former les chasseurs, puis d'obtenir les agréments des centres de collecte et de traitement.
Un rendez-vous sur notre antenne. Depuis les années Covid, le monde agricole ne reçoit pas d'aide spécifique. C'est pourtant un secteur économique important en Calédonie. Alors comment soutenir le monde rural? Ce sera le thème d'une commission plénière du Congrès prévue vendredi. Et nous en parlerons dès ce matin avec Lionel Brinon, le président de la commission agriculture et pêche du Congrès, sera en effet notre invité du matin à 7h30. Et puis à midi, le magazine citoyen reprend et il sera consacré cette semaine à la plateforme France Volontaire, qui a pour but de développer le volontariat de solidarité internationale. En ce début d'année, elle lance une campagne de recrutement avec 9 missions, dont 7 au Vanuatu et 2 en Nouvelle-Zélande. Alors comment devenir volontaire? Quels sont les bénéfices d'une telle expérience pour les jeunes Calédoniens? Nous recevrons pour en discuter Marjorie Botella, responsable de l'antenne France Volontaire en Nouvelle-Calédonie, mais aussi 3 bénévoles, Noah Dumont, Nathanaël Onamkoko, qui sont tous les deux volontaires au Vanuatu, de retour sur le territoire depuis le séisme. Ils repartent dans quelques jours. Et Alexia Vaimua, c'est lui, vient quant à elle de finir son service civique en Nouvelle-Zélande. Émission donc à retrouver à partir de midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Et on termine avec l'actualité religieuse. 2 rassemblements de jeunes catholiques et protestants sur l'île de Marée en ce moment. Tout d'abord, la 20e édition du rassemblement des jeunes chrétiens de la Nouvelle-Calédonie qui a pour thème cette année « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». De nombreuses activités sont proposées à ces plus de 300 jeunes catholiques venant des 3 provinces jusqu'à dimanche. Écoutez Clément Yengo, il est responsable des jeunes de la paroisse de Nengone.
pour la semaine, on a un thème, c'est « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoute-le ». C'est dans Matthieu, chapitre 17, verset 5. Il y aura des temps d'enseignement qui vont être animés par Père Rock Apikawa et par Père Gros les matins sur le thème. Il y aura des carrefours, les jeunes vont visiter des paroisses en faisant des œuvres de miséricorde. Ben, l'objectif, c'est de se retrouver entre jeunes, se retrouver, partager la parole, c'est le vivre ensemble.
Et la tribu de Wabao, de son côté, accueille pour sa part la jeunesse protestante des différents consistoires. Il est 6h passées de 51 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. Merci de votre fidélité. Dans un instant, après la dernière pause publicitaire de cette édition, toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou. On parlera notamment de tennis avec le premier tour de l'Open d'Australie qui se poursuit, de la voile avec le Vendée Globe, mais aussi le Dakar 2025.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc. Prévente 2600 francs, sur place 3000 francs.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomatin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et du tennis à la une avec la suite du premier tour de l'Open d'Australie. 5 Français étaient sur les cours hier, 2 se sont qualifiés, les autres ont été éliminés.
Exactement, le premier à s'être qualifié hier, c'est Arthur Cazot. Le Montpellierain a dominé en 5-7 l'Argentin Sébastien Baez, qui était tête de série numéro 28 du tournoi. Le score 6-3, 5-7, 3-6, 6-0, 6-3. Arthur Cazot qui a souffert, mais qui s'en est sorti devant un public acquis à sa cause.
Ouais, franchement c'est incroyable, chaque fois j'ai l'impression d'être à la maison, de jouer en France. Là je crois qu'ils étaient une soixantaine dans les tribunes sur un petit court. Ils m'ont poussé du premier au dernier point, chanté la Marseillaise. Non, c'était incroyable, je suis hyper reconnaissant envers eux. J'espère qu'ils vont, foutre le même bordel au prochain match et qu'ils vont me soutenir comme ils l'ont fait aujourd'hui. Toi t'es dur aujourd'hui. J'ai pas fait un match flamboyant, mais bon, je me suis battu avec ce que j'avais aujourd'hui. J'y suis allé avec le cœur et c'est ce qui a payé. Donc je suis plutôt fier de moi là-dessus. Après voilà, il y avait un peu de crispation. C'était pas la folie ni en termes de niveau de jeu. Mais bon voilà, je suis encore en vie, je suis encore dans le tournoi. Donc c'est top, je vais faire de mon mieux pour arriver prêt au deuxième tour. De toute façon je vais me battre comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc c'est cool.
Et au prochain tour, Arthur Cazot affrontera le Britannique Jacob Fernley, tombeur de l'Australien Nick Kyrgios. L'autre Français à s'être qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, c'est Benjamin Bonzi. Il a battu en 3-7 le Belge David Goffin. Le score 6-1, 6-2, 7-6. Benjamin Bonzi, forcément satisfait de cette entame de tournoi.
Oui, bien sûr, je suis très content de gagner en 3-7 aujourd'hui. David n'est jamais... Et jamais simple à jouer, je restais sur 3 défaites contre lui. Mais voilà, j'avais un bon plan de jeu, je savais ce que j'avais à faire. J'ai réussi à très bien le faire pendant 2 sets. Après, c'est toujours compliqué de jouer à la perfection sur 3 sets en grand chelem. Le troisième a été beaucoup plus disputé avec plein de changements de scénario. J'ai des breaks d'avance, il revient, j'ai des balles de match, il revient. Mais content de m'en sortir en 3 sets. Et puis voilà, dans l'ensemble, ça reste un très bon match.
Au deuxième tour, Benjamin Bonzi sera opposé à l'Italien Francesco Passaro, chanceux de se retrouver là après l'abandon de son adversaire Grégor Dimitrov au premier tour. Notez qu'hier, Arthur Hinderknecht est passé tout proche de l'exploit face à l'Américain Frances Tiafoe, tête de série numéro 17. Il s'est incliné en 5-7 après plus de 4 heures de lutte acharnée. Caroline Garcia, elle, a perdu en 3-7 contre l'ex numéro 1 mondial, la japonaise Naomi Osaka. Ça ne passe pas non plus pour Léolia Jean-Jean, issue des qualifications, et pour Alexandre Muller. Ce mardi, on retrouvera 5 Français sur les cours à Melbourne dans un duel 100% tricolore entre l'ancien Gaël Monfils et le tout jeune Giovanni Mpetit-Péricard.
On passe à la voile, Léo Fichou, avec le Vendée Globe et l'arrivée qui est proche pour Charlie Dalin. Le skipper normand est au large des côtes bretonnes, à environ 110 000 nautiques des Sables d'Olonne.
Sur Massif, Santé Prévoyance, il possède toujours une avance confortable sur son dauphin Johan Richomme à bord de Paprec Arkea, environ 100 000 nautiques. Après 64 jours en mer, Charlie Dalin est attendu dans la journée, en milieu d'après-midi pour nous, selon les dernières estimations de la direction de course. Mais les conditions météo restent instables avec un vent assez faible. C'est pourquoi Charlie Dalin va rester concentré jusqu'au bout.
Je suis encore dans ma course, j'essaie de pas trop penser à l'arrivée pour l'instant. C'est sûr que c'est toujours la... quand on est proche de la destination du voyage que le temps passe un peu moins vite, quoi. Comme quand on part en vacances, c'est toujours le dernier kilomètre le plus long, quoi.
Charlie Dalin battra de plusieurs jours le record du Vendée Globe qui était détenu par Armel Lecléache. C'était en 2016-2017, en 74 jours, 3 heures et 35 minutes. Charlie Dalin devrait arriver, lui, en 65 jours.
Et puis un mot de sport mécanique maintenant avec le Dakar. Après 8 étapes, c'est très serré dans la catégorie auto, un peu moins évidemment dans la catégorie moto.
Chez les deux roues d'abord, c'est toujours Daniel Sanders qui est en tête. Malgré sa 7e place sur la dernière étape, l'Australien possède toujours un peu plus de 11 minutes d'avance sur l'Espagnol Tocha Chariena et 21 minutes 30 sur le Français Adrien Van Beveren. Dans la catégorie auto, le Sud-Africain ne possède plus que 5 minutes et 41 secondes d'avance sur le Saoudien Yazid Al-Raji. Le premier Français, Édouard Boulanger, copilote de Nasser Al-Attiyah, est quatrième à 34 minutes du leader.
Merci beaucoup Léo Fichou pour ce point complet sur l'actualité sportive. Je rappelle que vous avez présenté d'ailleurs la rétro 2024 de l'année sportive écoulée à retrouver sur notre site internet, tout comme les autres rétros. Il y avait Michael Juneski à midi qui nous parlait du sport calédonien et puis vendredi on parlait de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Tout ça c'est sur le site internet d'RRB, rrb.nc.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour les prévisions du temps, mon cher Thierry, on va prendre notre temps justement, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et notamment une vigilance aujourd'hui.
Exactement, une vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages pour des averses localement orageuses. Ce sera sur la Grande Terre et Bélep. Alors ce matin, au Loyauté, le temps sera généralement sec sous un ciel qui se chargera progressivement en nuages élevés. Ailleurs, le temps sera nuageux à couvert, lourd et instable. Les pluies ou averses seront fréquentes, faibles à modérées. Sur Bélep, la Grande Terre, un coup de tonnerre ne sera pas à exclure et ce sera en fin de matinée, plutôt sur le nord-ouest. Le vent, lui, pour ce matin, orienté nord-nord-ouest entre 5 et 10 nœuds. Sur l'est, à l'abri de la chaîne, il sera souvent variable faible. Des rafales seront possibles aux abords des orages. Cet après-midi, le temps restera maussade et pluvieux, même si la couverture nuageuse deviendra moins chargée en fin d'après-midi, ce sera sur le nord-ouest. Des orages éclateront sur la Grande Terre avec des pluies localement fortes. Sur les autres régions, les précipitations seront plus modérées. Le vent pour cet après-midi, toujours orienté au nord-ouest entre 5 et 10 nœuds, localement proche des 10 nœuds, près des pointes de la Grande Terre. Sur l'est et la pointe sud-ouest et le sud des Loyautés, il sera souvent variable faible. On termine avec des rafales qui seront possibles sous averses et sous les averses orageuses. Les températures, elles sont comprises rapidement entre 28 et 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.